93.6, Radio Bulle, rythme la jeunesse, mais pas que. On fait un petit clin d'œil ce matin à tous nos amis auditeurs gersois. On sait que vous êtes fidèles, surtout à Lectour, à nous écouter tous les jours. Et puis aussi un petit clin d'œil à nos auditeurs du Tarn-et-Garonne. Allez les amis, ce matin on est fiers d'être à Genève plus que jamais avec Sébastien Bouchereau. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous êtes responsable des éditions de La Dépêche. Vous êtes auteur de la série à succès, fiers d'être à Genève. Et en cette fin d'année, vous nous faites un petit cadeau. Vous nous apportez le tome 4.
Et oui, le tome 4 qui est sorti début décembre. Et c'est la suite d'une belle aventure qui a été éditoriale, hein, commencée en 2021 avec une sélection de photos d'archives confiées par les lecteurs du Petit Bleu. Ça nous plaît beaucoup. On fait un livre, ça marche très fort. Donc on en fait un deuxième, un troisième et puis aujourd'hui un quatrième.
Et la passion, ça se communique. On le voit dans le travail mené et puis aussi dans ces clichés. Des clichés souvent signés Antoine Balisté.
Oui, alors, ça fait maintenant plusieurs années que je collectionne les photos d'archives. Alors, je ne m'intéresse pas aux cartes postales, non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, mais ce sont des photos qui ont été diffusées de manière massive. Moi, ce qui m'intéresse sont les photos inédites. Et les photos inédites, on les trouve chez les particuliers, dans les albums. Ça donne lieu d'ailleurs à des rencontres qui sont toujours extraordinaires, parce que les gens m'interrogent toujours, me disent « Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans notre histoire ?» Et c'est justement cette histoire à hauteur d'homme qui me séduit particulièrement. Et donc, et puis ce qui m'intéressait également, c'est dans les fonds privés de trouver une certaine évocation de l'espace urbain à Genève, voir comment nos rues, nos places, nos immeubles sont-ils toujours présents tels qu'ils l'étaient au début du XXe siècle, ou est-ce qu'il y a eu des bouleversements sur l'espace urbain. Et donc en fait, c'est une étude un peu au long cours. Et puis je me suis retrouvé avec beaucoup d'images. Et puis, il y avait un photographe qui me semblait vraiment intéressant, c'est effectivement Antoine Balisté, qui est un photographe qui est né à Agen, il est né rue Pontarique en 1879. Il est décédé également à Agen en 1955 et il a été l'auteur de très nombreuses cartes postales. Mais j'ai commencé à m'intéresser à son travail parce que j'ai découvert dans la collection des archives départementales plusieurs centaines de plaques qui n'avaient pas été travaillées. Et à partir de là, c'est une sorte d'investigation qui s'est ouverte devant moi et je me suis rendu compte qu'il avait été un photographe pour les familles, il faisait des scènes de mariage, il avait son studio au boulevard de la République et donc on venait avec les communiants ou les jeunes bébés pour les prendre, qu'ils soient pris en photo dans son studio, mais il a également fait des reportages pour la presse locale, il a fait également des commandes pour des entreprises, donc voilà, c'est ouvert un univers assez extraordinaire et je dirais même poignant, puisque en fait ce monsieur est largement méconnu, il n'a pas eu de descendants et les milliers et milliers de documents qu'il a réalisés, en grande partie, ont disparu. Donc je tenais dans ce tome 4 à lui rendre hommage, il est décédé en 1955, on sort le livre en 2025. Voilà, c'était l'occasion de donner un coup de chapeau à cet illustre à Genève.
Et il était quasiment au centre du monde à Genève, puisque effectivement son studio se situait au niveau de la rue de la Grande Horloge, mais sur place des Laitiers en fin de compte.
C'est ça, son premier studio dans les années 30 était situé au magasin Super Dry, grosso modo. Là, là. Oui. Et puis ensuite il a déménagé pour être au coin de la rue Grande Horloge et du boulevard de la République. Il avait sa boutique qui était au rez-de-chaussée, mais surtout il avait son studio qui était au premier étage. Et si vous connaissez bien Agen, vous voyez très bien ce balcon un petit peu circulaire. Et comment dire, de là, il faisait des photos en plongée. Et il a fait notamment des photos de la Libération en 1944. Il avait une vue imprenable sur le centre-ville, sur l'actuelle place des Laitiers.
Alors, il y a les trouvailles quand on trouve un document, une photo, une pépite. Et puis après, il y a l'interprétation.
Oui.
Et ça, j'imagine que c'est ce qui doit prendre le plus de temps.
Oui, alors pour en venir au fond Balisté des archives départementales, ce sont des plaques de verre qui sont cotées, hein, elles ont un numéro 30FI75 et puis c'est tout. Donc heureusement, je connais un petit peu maintenant le centre-ville d'Agen, donc j'arrive à détecter ce qui se passe et devant moi et j'ai une image où j'ai un rassemblement populaire. On a la statue de la République, donc on est place du 14 juillet, on est manifestement dans les années 30 et puis c'est tout. Et on a numérisé ça, on zoome, mais bon, c'est difficile. Que se passe-t-il? Est-ce un concert de musique? Est-ce que, bon, et rapidement, J'ai compris que c'était probablement un événement politique, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de déterminer que c'était le 14 juillet 1936, le premier 14 juillet du Front Populaire, et le maire Messine qui harangue la foule. Voilà, donc c'était assez intéressant, parce qu'à partir de là, je peux regarder dans la Dépêche, dans le Petit Bleu et dans la Petite Gironde de l'époque, et voir comment est-ce que cet événement politique important est interprété par la presse de droite et par la presse de gauche. Il y a également, la couverture du livre est assez intéressante, puisque c'est une photo qui a été prise en 1934 pour l'inauguration du Stade Vélodrome Paul Danglars. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions à Agen une piste, qui était quartier Sambel, une piste vélodrome, mais dans les années 30, les courses sont de plus en plus spectaculaires. D'ailleurs, il y a non seulement des courses de vélo sur les vélodromes, mais également des courses de moto, et les pentes sont de plus en plus accentuées. Et en fait, la piste d'Agen est un peu has-been par rapport à ce qui se fait notamment à Aiguillon, à Dax, à Mont-de-Marsan. Et donc le club de vélo d'Agen va décider de reconstruire une nouvelle piste. Et on va organiser donc un grand rendez-vous sportif pour inaugurer ce stade vélodrome qui va porter le nom de Paul Danglars, qui était le grand champion d'avant la Première Guerre mondiale de vélo de la Genève, et qui va donner lieu d'ailleurs à un match entre la France et l'Allemagne en 1934.
Ah, quand même.
Donc vous voyez un peu le contexte un petit peu politique, et donc c'est tout à fait intéressant dans la presse de l'époque, puisque les journalistes invitent les supporters à Genève à encourager les Français, mais avec un certain sens du fair play.
Bien sûr.
Et en fait, on se rend compte que ce rendez-vous, il est non seulement sportif, mais à la limite, il est un peu aussi diplomatique.
Exactement. Et c'est vrai que sous le prisme de l'histoire agenaise, on voit quand même un petit peu plus loin que de, au-delà de nos frontières en tout cas. Moi, la question que je me pose à chaque fois, effectivement, vous avez la ressource au niveau des archives des journaux, mais est-ce que le bouche à oreille fonctionne sur ce type de trouvailles encore ?
Alors, c'est difficile de retrouver quand même des témoins quand je travaille sur une image datant des années fin des années 50, début des années 60, qui est un petit peu la limite, c'est un peu mon plafond de verre, parce que je m'intéresse quand même essentiellement aux années 20 et aux années 30, mais voilà, sur cette chronologie-là, difficile d'avoir des gens qui
des
se souviennent.
Enfants, des...
Et non, parce qu'une manifestation, bah, quelqu'un qui est né en 1936 a 90 ans l'année prochaine.
Ah oui, ça c'est sûr. Donc... Mais des fois, c'est vrai que les parents parlent aux enfants, et moi j'entends encore des gens d'une soixantaine d'années qui racontent en fait.
Oui, alors je répète, hein, sur les documents que je recherche, quand je suis chez les gens, maintenant ce sont des personnes âgées, 70, 80 ans, qui déploient devant moi des documents, et ils se souviennent de leurs grands-parents. Donc on est vraiment éventuellement sur la fin du 19e, mais ils sont eux-mêmes quelque part les derniers témoins ou les derniers à pouvoir interpréter des documents familiaux.
Exactement,
aujourd'hui,
ouais.
Aujourd'hui, ce sont nos grands-parents dans les familles qui sont détenteurs de la mémoire,
ouais.
Et charge à nous plutôt de les écouter de manière à ce qu'on soit également des transmetteurs, ce qui est pas évident. Donc en fait, ce que vous pointez, c'est quand même un effacement à bas bruit de la mémoire dans les familles.
Exactement, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça qu'il faut parler. Et la tradition orale, elle a aussi toute sa place, et faut pas la négliger, en tout cas à mon sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette... voilà, on arrive dans une classe de l'école Sambel en 39, et on a des enfants bien sages, tous ensemble.
Oui, alors cette photo, elle est marrante, parce qu'elle garde, pour le coup, sa part de mystère. C'est une photo qui m'a été donnée début novembre, c'est-à-dire qu'elle s'est invitée. Le livre était presque bouclé, et c'est une dame d'Agen, Madame Dupuy, qui m'a donné cette photo. C'est une photo qui vient de sa famille. La particularité, c'est que c'est à l'école. On sait que c'est à l'école Sambel. On sait que c'est en 1930. On sait pas trop. On n'a pas trop d'éléments sur l'institutrice de l'époque. Mais ce qui est assez marrant dans cette image, c'est l'environnement déjà, puisqu'on a vraiment les écoliers, les blouses, la plume sergent-major, les encriers en porcelaine, les deux enfants par table, etc. Mais surtout, il y a un petit garçon.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit garçon ? Parce que, évidemment, à cette époque, la communale, il y a les garçons d'un côté et les filles de l'autre.
C'est pas encore la mixité.
Et donc, je sais pas, il y a le photographe qui a dû dire au petit garçon, mais écoute, mets-toi ici. Puis en plus, on l'a mis au premier plan. Donc c'est assez, la photo est assez marrante.
Exactement. Et puis après des scènes de la vie locale, bien entendu. Alors je pensais que c'était des infirmières au départ, mais ce sont des cuisinières.
Oui, alors il y avait un lycée qui était réservé aux jeunes filles. Il était là où il y a la cité administrative aujourd'hui, le bâtiment qui est juste en face, côté donc rue Lamouroux, c'est une ancienne caserne militaire. Et effectivement, dans cet établissement qui était réservé aux adolescentes, il y avait des cours de cuisine, des cours de couture, de sténodactylo, etc., etc. Et donc j'ai retrouvé des films qui ont été réalisés à l'intérieur de cet établissement, je crois que c'est en 1954.
La curiosité, l'étonnement aussi, très certainement pour vous, sur ces découvertes. Est-ce qu'il y a des clichés ou un cliché plus qu'un autre qui vous a particulièrement marqué ?
Oui, alors des clichés, j'en ai beaucoup. J'ai de quoi encore faire plusieurs livres. Là, pour le coup, évidemment, c'est le travail d'Antoine Balistet, puisqu'on est sur des plaques de verre qui sont d'une netteté, d'une qualité exceptionnelle et qui étaient, je dirais, renfermées dans des boîtes depuis une vingtaine d'années. Donc personne ne les avait travaillés, et c'est la découverte des usines Grange, oui. C'est-à-dire ces usines qui employaient des milliers et des milliers d'ouvriers et qui étaient top niveau, comme on dit aujourd'hui, dans le domaine de l'industrie, notamment des cuves émaillées, hein, c'est-à-dire que c'était une usine qui... le fondateur, c'était Louis Grange. On est, vous savez, près de entre la route de Cahors, c'est dans la direction de Pont-du-Casse, là où il y a le chantier de l'éco-quartier qui avance. Et donc, on fait là-bas des immenses cuves pour transporter du liquide alimentaire, du vin, du lait ou de la bière. Et donc, j'ai découvert... plusieurs dizaines de plaques de verre. Donc manifestement, c'était un reportage, une commande faite auprès de Balistet. J'ai retenu trois photos où on voit l'immensité des ateliers. On voit qu'ils font également des camions citernes, et puis que l'usine est directement connectée au canal ou à la ligne de chemin de fer afin que les produits partent ailleurs en France ou à l'étranger. Et donc c'est l'illustration quand même d'une certaine excellence de l'industrie locale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup du problème de la désindustrialisation, qui est un phénomène qui est né maintenant il y a plusieurs décennies en France, mais on avait à Agen, alors c'est pas comparable avec ce qu'on pouvait trouver ailleurs en France, mais il y avait des usines, et des usines qui employaient de nombreuses personnes et qui étaient de très très grande qualité, et ça fait partie de notre passé également.
Et un passé presque grandiose, parce qu'effectivement, à l'intérieur des usines Grange, les décors, on a l'impression de décors de films, dignes de films.
Oui, alors, il faut prendre garde également, parce qu'il y a la photo, puis il y a ce qu'on ne voit pas.
Ah ben, le noir et blanc, c'est flatteur. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait tout à l'heure de 1936, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de mouvements de grève aux usines Grange, que c'était vraiment le patronat à l'ancienne, et que les conditions de travail étaient quand même très très difficiles. Hein. Les ouvriers allaient dans des cuves immenses, ils allaient souder, vous rendez-vous compte un peu les accidents du travail qu'il y avait à cette époque. Enfin, puis là, c'est quand même l'année où les syndicats obtiennent quand même la semaine de 40 heures. Donc on est quand même dans un passé qui il y a de l'excellence, mais il y a de la souffrance aussi.
En tout cas, il y a de la beauté dans cet ouvrage, Fier d'être à Genet, quatrième tome, les amis. Il y a aussi le commentaire de Sébastien Bouchereau, qui est toujours foisonnant de ressources historiques. Hein. Les faits sont, voilà, vous ne pourrez pas les contrarier. Donc allez vous procurer le tome 4. Si vous n'avez pas le 1, 2 et 3, il y a un coffret qui est disponible.
Oui, on a sorti un coffret réunissant les tomes 1, 2 et 3, de manière à ce que les gens puissent se raccrocher au wagon et puissent avoir la collection complète. Mais on a sorti le 4 de manière à ne pas pénaliser les nombreuses personnes qui ont déjà acheté le 1, le 2, le 3 et qui sont toujours... Alors le 4, on peut le trouver dans les librairies et chez les marchands de journaux, et le coffret est chez Delbert et Cultura.
Et le succès, c'est aussi la proximité que vous cultivez avec vos lecteurs et avec les Agenais.
Absolument. On est fiers d'être Agenais et fiers d'être l'auteur d'un livre 100% Agen. Il est fait à Agen, il est imprimé à Agen. C'est vraiment un produit de chez nous et on est fiers, oui.
Un produit de chez nous pour les gens de chez nous, et ce d'ailleurs aussi, ceux qui passeraient par Agen, si vous avez des amis qui viennent passer les fêtes, faites-leur connaître la ville, parcourez-la à pied si vous pouvez, et puis ensuite à la fin, parcourez aussi cet ouvrage Fier d'être Agenais, le 1, le 2, le 3 et maintenant le 4. Merci voilà. Beaucoup Sébastien Bouchard.
Merci pour votre invitation.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
De même à vous et à vos auditeurs.
J'espère qu'on se reverra pour le 5.
Allez, on y va, ok.
Les amis, on se retrouve dans un instant, juste après le top de la musique sur Radio Bulle.